Phare FM Lyon Dauphiné 107.
L'invité.
La communauté musulmane lyonnaise est l'une des plus importantes de France. En France, l'islam compterait environ 5 millions de fidèles, soit 8% de la population. Avec ses 300 000 fidèles, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la troisième plus importante de France, après Paris et Marseille. Dans la région, les musulmans peuvent pratiquer leur culte dans plus de 600 mosquées, ce qui fait d'Auvergne-Rhône-Alpes la région la mieux équipée après Paris. Ancien musulman lui-même, Salah Mokrani, veut aider les chrétiens aujourd'hui sur la question des musulmans pour mieux les comprendre, les aimer et leur annoncer l'évangile. Il s'est mis au service des églises membres du Conseil national des évangéliques de France du Rhône pour évangéliser les musulmans et les conseiller pour intégrer les musulmans convertis à Christ dans l'église locale. Bonjour Salah.
Bonjour.
Salah, qu'est-ce que c'est qu'être musulman aujourd'hui ?
Alors là, c'est une très très bonne question, parce que étant donné que l'islam est très complexe, quand je dis complexe, c'est pas forcément sur le plan religieux, parce que chaque musulman dans ses différentes branches et traditions se rejoignent sur les fondamentaux, c'est-à-dire être musulman, c'est confesser que Mohammed est le messager de Dieu et qu'il croit avant l'unicité d'Allah, le seul Dieu unique. On n'associe à aucune divinité. Évidemment, cela va en partie contre la Trinité, ce que nous croyons. Mais s'il fallait résumer dans la simplicité, c'est confesser que Mohammed est le messager de Dieu et l'unicité d'Allah. Ça, c'est la base. C'est ce qu'on appelle la shahada. Je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu et Allah est l'unique. On devient musulman de cette manière-là, en fait. Ça, c'est commun à tous les musulmans. Maintenant, être musulman, c'est aussi lié à un contexte social. Un arrière-plan à différentes sensibilités. Les musulmans sunnites, qui sont la majorité, qui sont de la branche saoudienne, les wahhabis, qui sont les radicaux, en fait, et les soufis, qui est une branche en parallèle, d'ailleurs, qui a été frappée d'hérétique par la majorité des musulmans, où c'est plutôt une approche mystique. On trouve ça en Turquie, ce qui tourne autour d'eux dans une sorte de mysticisme. C'est un courant qui est plutôt philosophique, qui est minoritaire, en fait. Mais la majorité, ce sont surtout des sunnites, dans la tradition coranique, et des hadiths, c'est-à-dire des traditions à côté du Coran, c'est-à-dire les dires et les actes de Mohammed qui ne sont pas inscrits dans le Coran. Voilà, c'est s'il fallait que je résume, en gros.
Vous-même êtes donc, on le disait en introduction, un ancien musulman, vous êtes converti aujourd'hui au christianisme, on le disait, vous avez décidé d'aider finalement les églises membres de la pastorale lyonnaise. Quel est votre rôle exactement auprès d'eux ?
Mon rôle parmi la pastorale lyonnaise, c'est de partager mon expérience. Ça fait 35 ans que je chemine auprès des musulmans. Je suis moi-même un ancien musulman. Et ce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'on est un ancien musulman qu'on connaît forcément les musulmans. Les musulmans, pour les connaître, il faut les côtoyer. Il faut entretenir des relations permanentes avec eux. Parce que souvent, on me dit, oui, mais toi, tu es un ancien musulman, c'est plus facile pour toi. Non, si on n'entretient pas des relations avec eux, on ne les comprend pas. On ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est pour ça que je dis, je partage mon expérience. Cela fait 35 ans que donc je vis à l'intérieur de la communauté. Je précise l'intérieur, parce qu'on peut avoir un regard de l'extérieur qui est théorique, abstrait. Et quand je dis de l'intérieur, c'est vivre de l'intérieur avec eux. Et cela est dû à mon travail également, parce que j'étais éducateur de rue pendant des années dans les quartiers nord de Paris Nord, Marseille. Je travaille dans le bailleur social actuellement, je travaille dans les quartiers. Donc déjà, rien que par ma profession, je vis avec eux. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que, en tant que chrétien, disciple de Jésus, d'arrière-plan musulman, ce qu'on appelle les APM, chrétiens d'arrière-plan musulman, je côtoie autour de moi, la majorité de mon réseau sont des musulmans. Voilà ce que je fais avec les pasteurs et avec les églises. J'aime beaucoup ta question parce que c'est une question qui m'a beaucoup travaillé ces dernières années, parce que souvent on apporte aux chrétiens occidentaux des méthodes, des stratégies, des manières de faire qui sont exportées d'ailleurs. En France, nous les évangéliques, on est très pauvres dans la mission auprès des musulmans, au niveau ressources. Tout ce qui est traduit aujourd'hui, ce que tu trouves dans les différentes librairies évangéliques, ce sont des traductions du champ de mission parmi les musulmans en Afrique, au Moyen-Orient, etc. En France, il n'y a pas grand-chose. Les missionnaires qui venaient en France s'installer, c'était des Américains, des Anglais, etc. Il n'y avait pas forcément des ressources en France. C'était des méthodes qui étaient exportées, mais cette manière de faire ne correspond pas au contexte français. Moi qui ne suis pas écrivain de métier, par la force des choses, j'ai été amené à écrire un livre qui s'appelle « Comprendre et aimer les musulmans en France ». Parce qu'il fallait une spécificité française. C'est ce que j'explique aux églises et aux pasteurs. L'islam de France n'est pas l'islam du Moyen-Orient, du Maghreb. Même s'il y a des sensibilités avec le Maghreb, parce qu'une majorité sont maghrébins en France. Mais il y a un label français. C'est une communauté qui est intégrée dans le tissu et l'histoire française, qu'il faut aider à décrypter, à comprendre et qui vivent leur foi musulmane en essayant de trouver leur harmonie dans le contexte français. C'est ça qu'il faut expliquer aux pasteurs. Ça a de lourdes répercussions. Par exemple, des fois, quand je vais dans des églises, on me dit « Ah, frère Salah, voilà ce que je donne aux musulmans, ils donnent des traités écrits en arabe. » Mais ça, tu donnes ça aux maghrébins, c'est du chinois. Ils comprennent rien du tout. Ça montre l'ignorance du musulman de France. Et si je mets en avant les maghrébins, c'est parce que c'est une majorité. Il y a des Turcs, il y a des Africains, des Pakistanais et tout ça, mais la majorité, c'est des maghrébins, dans les quartiers, dans les cités, dans les mosquées. Et ben, ce sont des gens qui sont nés en France, qui ont été éduqués à la française, qui parlent le français. Et c'est ce que j'explique aux pasteurs et aux chrétiens. Je leur dis, quand vous allez devant les musulmans, ne soyez pas bloqués, parlez français, ils vous comprennent. Ils ont grandi en France, c'est pas un problème. Vous pouvez leur donner un traité, une lecture française. Il faut l'adapter à leur culture.
Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'annoncer l'évangile à un musulman de France ? Finalement, c'est quoi les conseils que vous donnez aujourd'hui aux chrétiens qui s'intéressent aux musulmans ?
Merci pour cette question, parce que c'est une question qui me travaille. Pourtant, on ne s'est pas mis d'accord, hein, Anaïslan et moi, mais tes questions sont pertinentes. Non, mais c'est vrai. J'apprécie tes questions parce qu'elles sont très pertinentes et c'est des questions qui correspondent exactement à mon cheminement ces quelques dernières années. Comment aborder le musulman et de quelle manière ? Je dis aux chrétiens et aux églises, avant d'aborder le musulman comme si on allait à la chasse pour le convertir, etc., et vous devez accepter Jésus le Sauveur et tout ça, et on essaie de les aborder pour quoi que ce soit, la première chose que je leur dis, prenez le temps de les connaître. Si vous voulez que votre message soit réceptionné et soit bien perçu, prenez le temps de connaître. Je dis souvent aux chrétiens, imaginez-vous que quelqu'un vient vers vous, il ne vous connaît pas ni en Adam ni en Ève, et il veut vous communiquer un message. Vous voulez dire, mais attendez, mon gars, tu me parles, mais t'es qui ? Je dis, prenez le temps de connaître les musulmans, passez du temps avec eux. Un jour, j'ai fait une formation dans une église sur comment aborder les musulmans. Et suite à ça, un frère est venu vers moi et il me dit, tu sais, frère Salah, je me rends compte que dans le fond, on veut faire beaucoup de choses avec les musulmans, on veut s'intéresser, on veut connaître beaucoup de choses. Mais je vois, par exemple, mon voisin, c'est un Marocain. Jamais il m'est venu à l'idée de l'inviter chez moi pour boire un café comme tu nous l'as expliqué. C'est quelque chose de tout simple. Quand on voit un arabe, le problème, c'est que c'est synonyme musulman, mais c'est pas vrai. C'est pas parce qu'il y a un arabe en face de nous que c'est un musulman. Un musulman, c'est un pratiquant. C'est un muslimine. C'est un soumis. Tu peux avoir un arabe, un maghrébin. Alors quand je dis arabe, c'est un générique, hein. Mais quand tu vois un arabe, pour la majorité des maghrébins, c'est pas forcément des musulmans pratiquants. Ça peut être des jeunes, des délinquants. Ça peut être un athée. La majorité des maghrébins en France, ce ne sont pas des musulmans pratiquants, pour une bonne partie. Ce sont des délinquants de quartier, ce sont des gens dans des quartiers, dans des cités, ce sont des gens qui vont faire leurs courses, qui cherchent du travail, qui sont malades. Des fois, quand on voit un arabe, on voit tout de suite un barbu, un musulman religieux qui boit du thé à la menthe, qui monte sur un chameau, qui se promène dans les dunes du désert et tout ça. Non, mais il faut casser cette image, Anaïs. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Et je sais que ce message-là passe bien, ça rassure les pasteurs et les églises, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on leur a abordé comme, de cette manière-là. Ceux qui donnent des formations, souvent, comment évangéliser les musulmans, ils en mettent plein la vue dans leurs connaissances aux églises et aux pasteurs, en citant le Coran, des sourates, l'histoire, la tradition islamique. Les pauvres, les personnes qui écoutent ça dans ces formations, ils écoutent, mais ils ne comprennent rien. Ils sont complètement déconnectés, parce que c'est de la connaissance acquise. Et c'est de la connaissance qu'eux-mêmes, ils n'ont pas recherchée. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut amener aux églises. Moi, il y a deux choses, Anaïs, que j'amène aux églises et aux pasteurs. C'est leur faire comprendre que les gens que tu côtoies au lycée, à l'école, ton voisin, à l'usine, etc., Mohamed, Farid et tout ça, apprends à l'aimer simplement. Prends du plaisir à passer du temps avec lui simplement. Comment ça va, Mohamed, lui on boit un café et tout ça. Prends le temps de le connaître. Passer du temps avec eux, ça c'est la première chose que je dis sans cesse. La seconde chose, la première barrière qui bloque les chrétiens occidentaux, ça s'explique bien avant le terrorisme, hein. Ça a toujours été comme ça, l'étranger fait peur. La différence fait peur. Il n'est pas comme nous. Tu rajoutes derrière le terrorisme, pendant des années en France, dans les médias, la guerre de l'Iran, l'Irak, le Moyen-Orient, le pétrole, on ne parle que de ça, de politique, de guerre et tout ça. Et après en France, le terrorisme en France et tout ça. Comment tu veux pas que les chrétiens aient peur après ? Déjà, ils avaient peur. Tu rajoutes ça derrière ça, les médias, l'impact que ça a dans l'esprit des chrétiens. Les chrétiens sont paralysés devant les musulmans. Ils croient qu'ils ont tous des kalachnikovs ou un couteau. Allahu Akbar, ils vont te couper la tête. Et moi, ce que je fais avec des églises, je dis au pasteur, non, il n'y a pas de formation. On va sortir dans le quartier, on va aller au marché, on va prendre le temps, découvrir les musulmans au marché. On va aller au quartier. Un jour, un pasteur m'a invité en Picardie. Il a implanté une église, ça fait 20 ans. Il n'a jamais côtoyé les musulmans. Il m'a dit, Salah, j'aimerais que tu m'aides, tu viens. Je suis parti là-bas. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, on va rien faire. On va aller au quartier, on va boire un café avec eux et je vais te faire baigner dans l'atmosphère. On va aller dans la mosquée et tu vas voir que tu vas pas être égorgé ou quoi que ce soit. Il me dit, mais t'es sûr? Ils sont reconnus intégristes. Je lui dis, non, t'inquiète pas. On a été à la mosquée spontanément. L'imam et leur équipe, le président de l'association, tout ça, ils nous ont servi du café, des cacahuètes, des macros, des gâteaux orientaux. Ils ont accueilli le pasteur comme un prince. Le frère, jusqu'à aujourd'hui, s'en remet pas. J'étais membre d'Exemple Analyse.
Quelles sont les questions que peuvent se poser les musulmans sur la foi chrétienne? On a envie des fois de leur parler de plein de choses. On ne sait pas forcément par quoi commencer. Qu'est-ce que eux se posent comme question?
Ça, c'est très bien. C'est une très bonne question là aussi. Ça, c'est un sacré défi pour des Occidentaux qui veulent aborder les musulmans, parce qu'il faut connaître comment ils pensent, le musulman. Et pour savoir comment ils pensent, il faut le connaître. Ensuite, en prenant du temps avec eux, on comprend ce qui les préoccupe. Ce qu'il faut savoir déjà, un musulman, c'est un religieux à la base. Les discours et les discussions tourneront autour du religieux. Parce qu'à la différence du christianisme, on peut séparer l'espace public et la vie privée. Notre foi, elle est personnelle. Les musulmans, tout est intégré dans tous les aspects de la vie, que ce soit l'espace public ou l'espace privé. Le plus profond de soi, un musulman, même s'il n'arrive pas à mettre des mots, même si c'est à des degrés différents, parce qu'il y a plusieurs degrés de pratique musulmane, hein. Il y a ceux qui sont à fond, il y a les intégristes, il y a les moyens, il y a ceux que c'est théorique, etc. Mais ils ont tous quelque chose au plus profond d'eux. Ils ont peur de terminer en enfer. Ça, c'est la première chose. C'est la hantise. La seconde chose, ça va de pair pour pas terminer en enfer, c'est comment être agréable à Allah. Le problème chez les musulmans, c'est inconscient chez eux, parce que leur foi leur interdit de s'interroger, de s'auto-critiquer. Le problème, c'est qu'Allah, c'est abstrait. Il n'y a pas de relation avec Allah. C'est le message du prophète, ça s'arrête là. Nous, chrétiens, nous affirmons que nous avons une relation avec Dieu par la nouvelle naissance. Et qu'en Christ, par le Saint-Esprit, par la foi en relation avec Dieu. Les musulmans, ça n'existe pas, ça. Si on veut le rejoindre dans ce qui l'amène dans un tourbillon d'angoisse, dans quelque chose qui l'aspire, dans un abîme, j'aime bien citer souvent cette parole de Blaise Pascal. Il y a un vide dans le cœur de l'homme, et dans ce vide, c'est la forme de Dieu. Et il faut qu'on lui démontre Dieu dans notre vie. Et ça, c'est un défi pour les chrétiens. C'est un défi pour sa spiritualité. Tu ne peux démontrer ce que tu vis.
Vous aidez aussi les pasteurs à mieux intégrer les anciens musulmans convertis dans l'église locale. Pourquoi il y a besoin d'aider à les intégrer?
Il y a besoin de les intégrer parce qu'il y a un fossé culturel. Il y a une incompréhension, il y a des barrières qui sont dressées. L'étranger fait peur. Et j'allais dire, c'est universel ça, hein, parce qu'il ne mange pas comme nous, il ne vit pas comme nous, il ne s'habille pas comme nous, il ne pense pas comme nous. Donc du coup, il y a un fossé, c'est une évidence. J'allais dire, c'est une évidence. Il y a un grand enjeu dans leur conversion. C'est que quand ils se convertissent, ils sont coupés de la communauté. Ils sont rejetés. Ils sont considérés comme des apostats. Tout ce que je dis, je l'ai porté dans ma vie. Nous, les Arabes et musulmans, moi qui suis un ancien musulman et un intégriste, pour nous, la communauté, c'est la Oumma. La Oumma, en arabe, ça veut dire la matrice, c'est la mère, c'est elle qui maintient. La Oumma, c'est elle qui nourrit la communauté. Quand on se convertit au Seigneur, on sort de cette Oumma. On n'est plus en train de téter la matrice. Et donc, il faut qu'on trouve une autre Oumma qui nous accueille. Sans ça, il y a un choc. Il y a un choc violent pour nous qui venons de l'islam. Et si l'Église, on ne leur fait pas comprendre ça, qu'il faut aider ces personnes-là, soit elles retournent dans l'islam, soit elles font une dépression, mais en général, elles lâchent le christianisme, parce que c'est trop violent. Ils se sentent comme perdus, ils se sentent comme dans un sas. J'essaie d'aider les chrétiens et les pasteurs, de leur faire comprendre qu'il faut une attention particulière pour ces personnes. La seconde chose, c'est que je leur dis, il ne faut pas les occidentaliser. Tu enlèves ton vêtement et tu vas mettre mon vêtement. Non, ça aussi, ça va être un choc. Il faut les accompagner, les intégrer progressivement en les acceptant tels qu'ils sont, mais en même temps, les aider à trouver un équilibre entre l'Église, qui a un contexte occidental, et lui qui se trouve dans des repères culturellement arabo-musulmans, quand il rentre chez lui, dans son quartier, dans son environnement, etc. Et c'est très complexe, Anaïs. C'est très, très, très complexe.
D'après une étude de l'IFOP pour Le Point et la Fondation Jean Jaurès de 2019, 25% des musulmans de la région estimeraient qu'en France, la loi islamique, la charia, devrait s'imposer par rapport aux lois de la République. Déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, cette notion? Et puis, comment est-ce qu'on peut annoncer l'évangile à ces 25% de musulmans-là?
Il faut savoir que les chiffres, il ne faut pas leur donner trop de crédit. Parce que ça fait le buzz, ça frappe les esprits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réalité. Mais il faut vraiment relativiser. Parce que c'est sur un échantillon, sur 1000 personnes, 2000 personnes. Alors quand on dit la charia, moi ça me fait sourire quand j'entends un peu ça. Parce que je côtoie les musulmans, et pas qu'à Lyon, hein, Marseille, de partout. Les Arabes, on est des nomades dans notre relation, on est beaucoup dans le réseau. Et le téléphone arabe, c'est pas un vain mot. On est vachement connectés les uns et les autres. Et j'arrive à prendre de la hauteur un peu et de voir un peu ce que ressent la communauté musulmane de France. Il faut comprendre qu'une majorité, ils veulent pas la charia. Ils veulent vivre tranquillement leur foi musulmane. Qu'on les persécute pas, qu'on les critique pas, qu'on n'ait pas des préjugés contre eux, qu'on n'ait pas des actes de racisme envers eux. Une majorité de la communauté musulmane de France, depuis ces dernières années, en accélérant le terrorisme en puissance en France, eh ben, ça les a fragilisés, ça les a mis dans une crainte, au point que maintenant, ils haïssent les islamistes, les intégristes. Dans les quartiers, ils rasent des murs parce qu'ils sont agressés par la communauté musulmane. Modérés de France, parce qu'ils disent, à cause de vous, les Français nous haïssent. Ils nous insultent, vous bafouez l'image de l'islam. qui cherchent à être tolérants, à vivre dans la paix, dans la République, en France, etc. Mais le problème, c'est que les télés, qu'est-ce qui les intéresse? C'est ce qui frappe les esprits. On va toujours mettre l'aspect négatif. Comme me disait un vieux pasteur un jour, tu prends une feuille blanche, tu mets un point noir au milieu de la feuille blanche, les gens, ils vont se vocaliser que sur le point noir. Ils vont pas voir la feuille blanche, tu vois. Les chiffres, c'est un peu ça, tu vois. On aime mettre en avant ça parce que voilà, ça attire de l'audit. Quand je vais à la FNAC, je me renseigne sur les livres, sur l'islam et tout ça. J'aime bien interroger le vendeur. Je lui dis, qu'est-ce qu'ils vendent le mieux? C'est toujours ce type de livre qui met en avant des choses récurrentes, le salafisme, l'intégrisme, le terrorisme. Et ça se vend comme du petit pain. À savoir que ces derniers temps, de moins en moins ça se vend parce que les gens sont fatigués de ça, en fait. Et c'est pour ça que je dis, il faut relativiser. Il faut vraiment relativiser.
Les conversions du musulman au christianisme sont encore assez tabous et pourtant il y en a de plus en plus. Pourquoi est-ce que c'est aussi tabou? Finalement, c'est hyper difficile à quantifier. Comment expliquer que ce soit aussi tabou et du coup, comment aider aussi les musulmans dans leur cheminement, dans la foi?
Oui, très bonne question. C'est pas évident de ne pas faire des raccourcis aussi. Mais je vais essayer de ne pas faire des raccourcis et de ne pas donner des réponses simplistes. C'est tabou. Du côté musulman, c'est tabou parce que ça humilie l'islam quelque part. Pourquoi des musulmans quittent l'islam? Ça remet en cause l'islam. Ça veut dire que l'islam ne répond pas en fait et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si les gens quittent de plus en plus l'islam, et c'est ce qui s'est passé ces dernières années, à savoir que quand on dit quitter l'islam, attention, hein, il faut relativiser aussi parce que les chiffres, ce sont souvent des migrants, des Syriens et tout ça, par rapport aux migrants qui ont quitté leur pays. Mais il faut savoir que ces migrants, ils étaient dans des pays où il y a des traditions chrétiennes. Ça existe, les Coptes, les chrétiens orientaux. Mais il faut savoir qu'en France, les musulmans qui sont maghrébins pour la majorité, il n'y en a que ça hein, qui sortent de l'islam. C'est tabou parce que ce n'est pas possible. Et en plus de ça, c'est que les musulmans, comment ils perçoivent les chrétiens? Ils perçoivent des gens qui boivent de l'alcool, qui vont en boîte de nuit, une star de chanson, de n'importe quoi. Ils vont dire c'est un chrétien. Ils n'ont pas compris que la foi chrétienne, c'est une démarche personnelle. Ce n'est pas parce que tu es occidental que tu es chrétien. C'est un sujet qui est délicat parce que les réponses sont délicates.
On pourrait en discuter encore longtemps parce qu'il y a effectivement tellement de choses à dire. Et ça, la Mokrani, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui?
Je considère que le Seigneur m'a conduit dans une étape de ma vie où je dois transmettre et déblayer un peu le terrain, la confusion, les préjugés qu'il peut avoir dans le corps de Christ concernant les musulmans. C'est tout un travail que je fais depuis un certain nombre d'années. Je ne fais pas que ça parce que je suis beaucoup dans le terrain aussi, dans l'évangélisation, 1 Corinthiens 13, pour les chrétiens, pour aimer les musulmans, pouvoir les aborder, leur témoigner de Jésus. L'amour, c'est la clé en vie.
Merci beaucoup, Salam Okrani. On rappelle donc que vous êtes au service des pasteurs de la pastorale lyonnaise et vous avez écrit, pour ceux que ça intéresse, deux ouvrages, Annoncer l'évangile aux musulmans de France et Comprendre et aimer les musulmans en France, qu'on peut retrouver dans les librairies chrétiennes. Donc n'hésitez pas à vous le procurer pour mieux comprendre les musulmans et pouvoir mieux leur apporter le message de Jésus. Merci beaucoup, Salam.
Merci, Anaïs.
Phare FM Lyon Dauphiné.
107.
107.